Le docteur Caroline Quach est pédiatre, mais aussi épidémiologiste. Et puis, comme elle travaille à Sainte-Justine, elle va s'intéresser, entre autres, à la publication des statistiques presque au quotidien, là, maintenant, sur l'évolution de la pandémie en milieu scolaire. On pense que c'est une bonne chose et je vais lui demander. Docteur Quach, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Est-il important, docteur Quach, justement, que le gouvernement fasse preuve, là, en ce moment, d'une transparence totale et dise, voici, nous avons 47 écoles, c'est comme ça que ça se passe avec tant de cas?
Ben, je pense que oui, parce que autrement, ce qu'on voit, c'est que les parents essaient d'avoir les informations, puis ça peut mener à confusion. Je pense que de savoir exactement il y a combien de cas dans les écoles, ça fait juste rassurer les gens pour dire s'il y en avait un dans mon école, ben je le saurais. Puis finalement, c'est pas si pire que ça jusqu'à maintenant.
Ça n'a pas provoqué de réaction, de panique, loin de là. Mais vous croyez que c'est important, ça, non seulement pour les parents, mais j'imagine aussi pour le personnel enseignant?
Bien, tout à fait. Je pense que dans le cadre de cette pandémie-ci, on s'est rendu compte que la transparence des données était hyper importante. On se rappellera que quand le gouvernement a décidé qu'il publiait plus ses données quotidiennement, il y a eu une levée de bouclier. On n'a pas besoin de le suivre nécessairement dans la minute, de savoir quotidiennement ce qui se passe, ça nous donne une idée de l'ampleur de la propagation, puis justement de voir que finalement, jusqu'à maintenant, les choses sont assez bien contrôlées en milieu scolaire.
Est-ce que ça se passe comme vous, là, je parle de votre expertise, bien sûr, dans le domaine, surtout de la pédiatrie. Est-ce que vous pensez que ça se passe comme vous l'aviez pensé, c'est-à-dire la rentrée, c'est ni un miracle, mais en même temps aussi, c'est contrôlable?
Bien, tout à fait. Puis on s'est basé aussi sur ce qui s'était passé ailleurs. T'sais, il y a quand même plusieurs pays européens qui ont ouvert leurs écoles avant nous. Et donc, dans le dernier mois, ce qu'eux ont rapporté, c'est des cas acquis en communauté qui surgissaient ici et là, mais avec les mesures de santé publique en place, avec le travail de la santé publique, avec les mises en quarantaine des autres écoliers de cette classe-là, bien, il n'y avait pas eu de transmission, ou quand il y en avait, c'était des très petites éclosions. Puis ça rappelle ce qu'on a vu dans les camps de jour, ce qu'on a vu dans les garderies au printemps passé, puis dans les écoles qui avaient ouvert aussi au printemps passé. Donc c'est normal, c'est sûr qu'il va y avoir des cas, là, on s'y attend, que parfois il va peut-être y avoir des petits agrégats de 2-3 cas, mais ce qu'on ne veut pas, puis ce à quoi on ne s'attend pas, c'est que ça passe à travers toute une école. Si on fait bien notre travail, ça devrait être correct.
Alors, donc, les choses se passent différemment, Dr Quach, différemment du mois de mars. On avait peu d'informations, ça nous est tombé dessus comme un véritable tsunami, une pandémie là qui est d'envergure historique, qui a entraîné des décisions draconiennes, la fermeture, la mise en pause de toute une nation et de plusieurs pays. Est-ce que vous avez cette impression que cette fois-ci, on a beaucoup plus de contrôle?
On a beaucoup plus de contrôle parce qu'on teste davantage. Je pense qu'il faut quand même réaliser que les 180 cas qu'on a présentement, c'est fort différent des 180 cas qu'on avait au mois de mars. Au mois de mars, quand on a commencé tout ça, on avait le droit de tester seulement ceux qui avaient voyagé, et dans certains pays, là, pas ceux qui arrivaient de France au début. Il fallait qu'ils arrivent de Chine. Ensuite, on s'est mis à tester ceux qui arrivaient de voyage en général. Ensuite, on s'est mis à... Tu sais, on a élargi tranquillement. Donc, le 180 qu'on a vu au mois de mars, ça devait représenter finalement au moins... 5 fois plus, si c'est pas 10 fois plus de cas de transmission communautaire. Là, ce qu'on pense présentement, c'est qu'on a une assez bonne représentation de la transmission communautaire. Il y en a peut-être qu'on manque, c'est sûr, mais on réalise qu'autour d'un cas, par exemple, dans une école, la classe au complet se fait dépister dans les 4 jours suivants. Mm-hmm. Donc, on sait déjà s'il y a une transmission ou pas. On a des dépistages d'asymptomatiques. On a une meilleure idée de ce qui se passe. Alors, je pense qu'on est effectivement mieux outillé maintenant. On en comprend un peu plus aussi sur la transmission du virus. On a mis en place des mesures qui n'étaient pas là en mars. Donc, j'espère qu'avec ces mesures-là, on va réussir à ralentir le flot puis à ne pas être aux prises avec une deuxième vague plus grande que la première.
On va y venir
à la hauteur de la première.
Voilà, on va y venir dans un instant. J'ai une question spécifique concernant cette supposée deuxième vague. Là où je vais vous amener, Dr Quach, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, évidemment, de toutes ces mesures, le port de masque obligatoire, même dans des lieux publics en France. Mais les autorités pointent du doigt le nombre de nouveaux cas au quotidien de transmission. Spectaculaire. En France, plus de 9 000 personnes se sont ajoutées dans la seule journée d'hier. Mais les gens qui sont réfractaires à des mesures sévères disent « Oui, mais il y a beaucoup moins de décès que nous en avions en mars, avril, voire même début mai. »
Ils ont raison.
Oui. Il y a beaucoup moins de gens qui meurent.
Oui, mais c'est parce qu'on trouve beaucoup plus de cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 180 cas, ou mettons les 9000 en France aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les 9000 du mois de mars. Au mois de mars, sur les 9000, peut-être, on en avait probablement manqué au moins la moitié. Donc, il n'y aurait pas eu 9000 en mars, il y en aurait eu 18000, peut-être même 20000 ou plus. Et donc, c'est sûr que plus il y a de cas, plus il y a de risques de décès. Et quand on les attrape précocement, les cas, ben on empêche une troisième et une quatrième vague de transmission où là, ça se rendrait jusqu'à une personne vulnérable qui, elle, risque de décéder. Mm-hmm. On a beaucoup mieux protégé aussi là-bas leurs EHPAD, là, mais ici, nos CHSLD, je veux dire, il y a de l'équipement de protection individuelle.
Ouais, ouais.
Il y a des dépistages qui se font chez tout le personnel à toutes les semaines là, dans les CHSLD.
On n'aurait pas le même bilan, Dr. Quash, si on avait les mêmes mesures, là, si on se reporte à mars.
Probablement pas.
Ouais.
On a clairement manqué plein de cas. Puis
ouais.
On a laissé se transmettre une maladie qu'on connaissait mal, puis pour laquelle on ne comprenait pas tout à fait les mesures de contrôle. On s'en doutait, là, mais on les avait pas mis en place pour différentes raisons, parce qu'on pensait que l'asymptomatique ne transmettait pas, parce qu'on pensait que aussitôt qu'on était malade, on pouvait s'isoler, puis qu'on pensait que c'était juste un virus qui se transmettait au départ à partir de voyages, mais on a manqué clairement des vagues de transmission communautaire.
Ouais. Alors, la deuxième vague, voilà la grande énigme, on n'arrête pas de parler de ça. Il y a des gens, Dr. Quash, et dans le milieu scientifique, qui disent « Elle est déjà commencée, la deuxième vague, et vous ne le savez même pas. » Il y en a d'autres qui disent « Non, on l'appréhende. Elle va se mêler à la grippe annuelle, l'influenza, la saison d'influenza, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. » Où vous situez-vous face à cette fameuse deuxième vague?
Mais moi, je vous dirais que pour moi, c'est pas tant des vagues qu'une rivière qui coule. Donc, ce virus-là, quand il entre dans une population où il n'y a absolument pas d'immunité de groupe, là, personne n'a jamais vu, en fait, on va prendre plutôt une chute. Alors, la chute part. Et elle a commencé tranquillement parce qu'il fallait qu'elle accumule sa vitesse. Et elle est partie en mars. Et la raison pour laquelle elle s'est arrêtée, c'est qu'on a mis en place des barrages. On a confiné tout le monde, on a mis de la distance, on a mis des masques, on a rajouté des mesures, et c'est comme ça qu'on a réussi à contrôler le flot de la rivière. Éventuellement, pendant l'été, ces barrages-là qu'on a mis, à ça se sont ajoutés le fait qu'on était dehors, le fait que le virus survivait moins bien dans l'environnement avec le chaud, l'humidité. Donc, c'est comme si on avait eu des barrages naturels supplémentaires.
Ouais.
Mais au fur et à mesure qu'on retire les barrages, parce que là, il va recommencer à faire froid, on va recommencer à être à l'intérieur.
Et la grippe va s'amener.
Oui, mais il faut pas mélanger la grippe avec la COVID. La grippe, c'est un autre virus qui va donner des syndromes similaires, mais quand on teste les gens, ils vont être négatifs pour la COVID. Là.
Oui, donc, mais là, on va tout être mêlé, docteur Quash. On va être à la maison
sûr.
En disant, est-ce que j'ai un rhume, une grippe ou la COVID?
Ben à ce moment-là, on se fait tester.
Ouais.
Et c'est la seule raison, c'est la seule façon de le savoir. Puis vous avez raison là qu'on va avoir l'impression qu'il y a de la grippe qui se mêle à la COVID, mais en même temps... Je pense que quand on regarde les données de l'Australie, où eux ont mis en place des mesures de prévention pour la COVID, quand ils regardent leur résultat de test pour l'influenza, il y en a, c'est leur plus petite saison depuis des années.
Mm.
Parce que quand on prévient la COVID, on réussit aussi à prévenir la grippe. Donc, oui, c'est sûr qu'on va avoir l'impression qu'il y a plus de cas, mais quand on va, il va falloir les tester puis regarder comment est-ce que ça se différencie.
Ouais, ouais, ouais. Mais il va falloir faire un tri, hein, rapide. Parce que souvent, mais vous savez, Dr. Quash, vous êtes à Sainte-Justine, quand on est inquiet et puis que la saison d'influenza s'amorce, c'est normal de se précipiter. Je dis c'est normal, c'est pour ça que nos urgences sont engorgées dans la pointe de l'influenza de janvier. C'est normal de se précipiter à l'hôpital. Mais ça va, là, ce que ça m'a demandé, vous, à l'hôpital, de faire un triage extrêmement rapide, faire un test. Puis
on les trie, puis on va tous les tester,
c'est
clair.
C'est ça.
Oui, tout à fait. Mais donc, c'est sûr qu'on a hâte que les tests disponibles en 5 minutes ou 10 minutes soient disponibles en autant qu'ils soient bons, parce que les États-Unis commencent à en avoir. On va voir si Santé Canada va les approuver, parce qu'il faut évidemment qu'ils donnent des résultats fiables. Autrement, ça sert à rien. Mais quand on va être capable de faire ces tests-là plus rapidement et qui pourraient, à la limite, être délocalisés, parce que le but, c'est tu vas moins bien. Tu n'as peut-être pas besoin de voir un médecin, mais tu veux savoir ce que pharmacie. Alors, tu sais, peut-être qu'un pharmacien pourrait te le faire, peut-être qu'à une clinique au coin de la rue, ils auraient le test sur place, puis ils pourraient avoir le résultat.
Ça aiderait. Ça aiderait beaucoup d'accélérer encore le processus. En terminant, de toute façon, Dr Quash, les vaccins s'en viennent. Tout le monde parle de ça.
On a hâte, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être là. Il faut aussi qu'ils soient produits. Là,
j'allais vous demander quand est-ce qu'on va aller se mettre en ligne pour se faire vacciner.
Si j'avais une boule de cristal, je vous le dirais, mais j'en ai pas. Je pense que ce qu'il faut, réaliser, c'est qu'il faut que tous ces vaccins-là passent à travers toutes les phases des études. Et il faut le faire correctement et le faire bien. Et une fois que les phases 3 vont être faites, que les données vont être soumises aux organismes réglementaires, donc Santé Canada chez nous, à ce moment-là, on pourra dire que la qualité est bonne, que les données sont convaincantes. On fera des recommandations, mais il faut aussi que les différentes industries les mettent en production. Okay. Ça se passe pas en criant lapin, là.
Alors donc, ce que vous dites, Dr Quash, je décode. On ne peut pas produire un vaccin uniquement pour gagner une élection présidentielle.
Ah ben, il y en a qui le font, mais pas, ça ne devrait pas.
Parce que là, vous allez entendre ça, là, des déclarations spectaculaires dans les prochaines semaines.
Ben, il l'a déjà fait.
Ben, il l'a déjà fait, c'est vrai. Merci beaucoup, Dr Quash.
Merci, au revoir.
Dr Caroline Quash.